Salut, c'est Riwan, on se retrouve sur la Smart Interview. À travers ces podcasts, vous retrouverez des informations concernant le sport, la santé et le bien-être. Nous échangerons avec de multiples intervenants du milieu, des professionnels, mais aussi des clients. Allez, bonne écoute et on se retrouve à la fin du podcast. Salut à tous! Alors, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode des podcasts Smart Life. Alors, aujourd'hui, on est avec un invité un petit peu différent de d'habitude. On va présenter une nouvelle discipline que peut-être certains d'entre vous connaissent. C'est vrai qu'elle est de plus en plus en vue et notamment voilà, sur les réseaux sociaux. On en voit de plus en plus. Donc, je vous présente Corentin Clément. Salut, Corentin. Et du coup, aujourd'hui, on va parler donc de powerlifting ou de force athlétique. Donc pour commencer, est-ce que tu peux voilà, te présenter, présenter un petit peu du coup ton parcours pour en arriver jusque-là, que ce soit au niveau des études, etc., et aussi ton parcours sportif, ce qui t'a amené à voilà, pratiquer le power et présenter aussi un petit peu voilà, ton palmarès pour les gens qui ne te connaissent pas.
Ok, bah, du coup, comme tu l'as dit, moi c'est Corentin Clément. J'ai commencé le sport, on va dire de force globalement, donc la muscu plutôt au début quand j'avais 14 ans. J'allais avoir 15 ans, j'en ai 22 aujourd'hui, donc ça fait quasiment 8 ans parce que j'en ai 23. J'ai pas commencé tout de suite par le power, j'ai commencé vraiment par la muscu classique parce qu'avant ça j'avais des problèmes de santé, j'avais des TCA, donc j'étais anorexique. Et au début, vraiment, j'ai commencé la muscu pour reprendre du poids, pour voilà, faire un sport qui m'encourageait entre guillemets à reprendre du poids. Et bien, parce que pour moi, c'était plus facile de reprendre du poids si j'avais l'impression de prendre plus de muscles. Et donc voilà comment est-ce que j'ai commencé la muscu. Et au bout d'à peu près 1 an et demi, 2 ans, j'ai commencé le power, parce que je me suis rendu compte que sur tous les mouvements de muscu, j'étais plutôt fort par rapport à la moyenne de mon âge, mon poids, etc. etc. Et c'est vraiment comme ça en fait que j'ai commencé le power. C'était pas par hasard, mais j'ai découvert la discipline et je trouvais ça cool parce que je venais d'un milieu beaucoup plus, on va dire, c'est un peu bizarre, mais on va dire athlétique, dans le sens où ben, pour moi, le body, c'est plus un sport qui est artistique qu'athlétique, dans le sens où ben, ce qu'on juge, c'est vraiment de l'esthétique, alors que dans le power, c'est totalement l'inverse. On a un chiffre, soit on fait plus, soit on fait moins. Et c'est ça qui m'a vraiment attiré dans la discipline du power, c'est vraiment l'aspect chiffre. L'aspect, si tu fais 500 grammes de plus, t'es plus fort. Alors que c'est très compliqué de se juger en body ou dans tout ce qui est en rapport avec le fitness, puisque ben, c'est toi, comment est-ce que tu t'en as ta peau, ou comment est-ce que les gens jugent que tu es physiquement. Et donc, du coup, ça rend des critères beaucoup plus subjectifs qu'objectifs. C'est vraiment comme ça que je suis parti vers le power. Donc, comme je te dis, ça va faire quasiment 8 ans que je m'entraîne. J'ai fait ma première compétition quand j'avais 16 ans, je pense, et j'ai gagné mes premiers championnats du monde quand j'avais à peu près 18 ans. J'allais avoir 19 ans. Donc, ça faisait à peu près 3 ans que je faisais du power. Et du coup, depuis, bah, j'ai fait des championnats du monde, des championnats d'Europe tous les ans. Et ma plus grosse performance que j'ai faite, c'est en senior, parce qu'il y a des catégories d'âge, sub-junior, junior, senior. En théorie, je suis encore junior, mais j'ai été surclassé parce que j'ai un niveau qui n'est pas mauvais. Et donc, du coup, ça me permet de tirer avec les Open. Et il y a en 2021, du coup, j'ai fait troisième au championnat du monde Open. Cette année, j'ai fait troisième au championnat d'Europe Open aussi. Donc voilà, actuellement, je suis compétitif en catégorie Open, dans la plus haute catégorie du coup du sport. Et je tourne, on va dire, en termes de performance. Il y a 2 ans, j'ai fait top 6 mondial, donc j'ai fait la 6e meilleure performance mondiale de l'année. Cette année, j'étais 15e, je crois, donc je tourne à peu près dans le top 20, entre 5 et 20 en termes de performance.
D'accord, voilà, donc tu as resitué un petit peu les choses. Alors, est-ce que ouais, tu peux juste réexpliquer pour les personnes qui ne connaissent pas ce principe de minima et de qualification pour des championnats? Parce que c'est vrai qu'on ne se qualifie pas en étant premier ou deuxième d'une compétition. C'est vrai qu'on se qualifie par rapport au minima qu'on va faire sur une compétition officielle, quoi.
C'est ça. Donc en gros, bah, c'est simple, hein. Il y a plusieurs niveaux qui sont définis par des minima, comme tu l'as dit. Donc en gros, c'est des chiffres, des totaux, parce qu'on a trois mouvements, donc squat, bench et soulevé de terre. Le but, c'est de faire un total sur les trois mouvements. Et il y a un minima, donc qui est un chiffre en kilos, qui est le total de ces trois mouvements, qui représente chaque niveau. Donc le plus bas, il me semble que maintenant, ça a été changé, c'est régional. Donc en gros, il y a, si je dis pas de bêtises, maintenant, c'est régional 2, régional 1. National 2, National 1, après il y a Collectif France, Europe et Monde. Donc en gros, pour chacun de ces niveaux-là, il y a un total qu'il y a à faire pour pouvoir avoir et prétendre à ce niveau. Et pour ce qui est par exemple des sélections internationales, à partir du moment où tu as le niveau Collectif France, tu peux être amené à être appelé à l'international, sachant qu'il y a plusieurs niveaux encore au sein même d'une équipe internationale. Il peut y avoir des petits jeux, comme par exemple là, les Jeux des Pyrénées qui va avoir lieu bientôt. Donc en gros, c'est deux nations, donc la France et l'Espagne. Il peut y avoir voilà, vraiment des petite compétition internationale, parce que ça reste une compétition internationale, donc c'est très bien, mais bon, voilà, à plus petite échelle, championnat d'Europe de l'Ouest, par exemple, qui est le championnat international le plus bas en niveau, encore une fois, je n'ignore pas, hein, c'est juste des faits, et après, championnat d'Europe et championnat du monde pour l'excellence, voire même maintenant Sheffield, mais c'est un peu différent. Sheffield, c'est une compétition qui a été organisée par une marque au sein même de la force, et c'est un peu différent, c'est pas classé par fédération, donc là, c'est pas la fédération française de force qui nous envoie, c'est un peu différent, donc c'est à part, mais voilà, les minima sont réalisés comme ça, et par exemple moi dans ma catégorie il me semble qu'un minima pour les championnats du monde en senior moins de 105 kilos c'est 830 je crois, faire 830 kilos au total pour potentiellement être envoyé à l'international, et comme tu l'as dit ça reste un minima, donc ça suffit pas pour être envoyé, mais ça veut dire qu'on a le niveau pour être envoyé, et après du coup notre DTN, donc directeur technique national, nous inscrit sur des listes, donc les listes des compétitions, en l'occurrence la liste des championnats du monde, et si on est dans les prérequis qui sont donc pour les championnats du monde top 8 mondial, donc aux inscriptions, là seulement on est envoyé.
D'accord. Et juste pour faire un petit aparté, effectivement, c'est vrai que Sheffield, c'est assez présent là en ce moment sur les réseaux sociaux, vu que ça va se tenir dans pas si longtemps, je crois que c'est en mars.
Exactement.
Et effectivement, c'est la marque SBD qui organise cet événement. C'est un petit peu une sorte de, si on devait faire un petit comparatif de All-Star Game du Power, où ils vont réunir, je pense, ils ont pris effectivement les champions du monde de chaque catégorie en senior.
Alors, pas chaque catégorie, il y a une petite nuance, si tu veux. En gros, le record du monde, il faut être à 95% du record du monde. Il y a des catégories en fait, qui sont un peu moins compétitives, donc par exemple les 59 cette année, la personne qui a gagné du coup le championnat du monde, il y a moins de 95% du record du monde, du coup il n'a pas été choisi. Mais en D'accord. théorie, vu que le sport est en gros essor, dans toutes les catégories il y a du monde, donc on va dire de 66 à 120 plus ou moins, toutes les gens qui ont gagné cette année ont battu le record du monde, ou au moins sont, on va dire, dans les alentours de 100% du record du monde, du coup ils sont envoyés. Mais si tu vois, il y a quelques personnes qui n'ont pas été envoyées, comme les 59, les plus de 120, il a été envoyé au final, Jesus Olivares, celui qui a gagné le championnat du monde, mais il a été réenvoyé après, parce que du coup il y a un système de wildcard, où en fait il y a 12 personnes, c'est-à-dire qu'il y a tous les champions du monde en théorie qui sont déjà envoyés, et après il reste des pics que eux choisissent en fonction des match-ups qu'ils veulent faire sur la compétition, etc. Et lui il a été réenvoyé, mais parce que du coup de base il n'était pas dans les 95% du record du monde, sauf que depuis il a fait des belles compétitions, etc. Donc ils ont quand même choisi de le réenvoyer.
C'est ça, c'est eux qui les jugent, on va dire, qui choisissent qui vont, les 12 personnes qui vont avoir une invitation un peu exceptionnelle pour participer à la compétition. Et du coup, toi, est-ce que tu prétendais à cette invitation ou
potentiellement, oui. C'est-à-dire que je suis dans les standards, donc je suis à 95% du record du monde, je suis à 98%, je crois, que je suis comme ça exactement. Mais après, voilà, c'est pas suffisant, c'est un peu comme les minima, c'est pas suffisant. Ce que SBD recherche, c'est vraiment le top du top, et notamment des catégories qui sont compétitives, des match-up, en fait, comme on appelle ça, vraiment une personne contre une personne, et pour ça bah faut qu'il y ait eu un peu une histoire. C'est pas seulement une question de où est-ce que tu te situes en performance, mais il y a aussi est-ce que j'ai déjà tiré contre cette personne, est-ce qu'on a déjà une compétition où on était très proche, est-ce qu'il y a une certaine rivalité qui s'est créée, parce que bah évidemment ça reste une compétition avec beaucoup 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 d'argent en jeu. Si je dis pas de bêtises, c'est quasiment 500 000 euros de cash prize, donc c'est c'est du jamais vu, je pense, que ce soit dans peu importe les compétitions de power, et même en body, je suis pas sûr qu'il y ait un sport qui existe depuis plus longtemps, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de compétitions qui offrent ça. À mon avis, peut-être au niveau de Monsieur Olympia, il y a des cash prize qui sont similaires, mais c'est vraiment la seule compétition, quoi.
Et encore, c'est que c'est Monsieur Olympia qui, en open, donc la plus grosse catégorie, c'est le gagnant qui gagne 500 000 dollars, mais c'est tout. Sinon, le reste, c'est vraiment beaucoup, beaucoup moins, effectivement. Mm-hmm. Ouais. Donc, c'est un cash prize énorme. Et du coup, il reste encore des places à l'heure actuelle
Il reste encore. Alors, ils ont annoncé une wildcard, donc comme je t'ai dit, Jesus Olivares, le champion du monde, plus de 120 kilos. Et je crois que c'est tout chez les hommes. Donc, chez les hommes, il reste encore 6 places, il me semble. Et d'accord. Chez les femmes, un peu moins, il en reste 5 ou 4.
Il y avait l'IA Powerlifting qui avait une petite invitation, je crois.
Alors, c'est pas sûr encore, il y a de grandes chances, d'accord, vu qu'actuellement c'est la numéro 1 mondiale. Je veux dire, si elle n'est pas envoyée, je vois pas qui d'autre pourrait être envoyé. Mais encore une fois, si elle est envoyée, c'est via une wildcard, puisque cette année, l'année-là où il y avait les sélections pour Sheffield, elle a eu des problèmes de santé, etc. Elle a loupé la pesée, donc elle n'a pas pu faire les championnats du monde et elle n'a pas pu gagner. C'est et bon, voilà, comme on l'a dit, ça m'étonnerait qu'elle soit pas envoyée vu son statut actuel.
D'accord, ok. Donc c'est vrai que on voit que c'est un sport quand même qui grandit, parce que quand on a, de toute façon, quand commence à y avoir effectivement de l'argent et des fonds dans un sport, c'est vrai qu'on peut estimer qu'il y a de plus en plus de gens, parce que on voit effectivement que dans le body, alors là c'est un peu pareil, c'est vrai que c'est au très très haut niveau, c'est vrai que un niveau en dessous, c'est pas un sport où il y a énormément de fonds. C'est vrai que si on compare aux sports les plus médiatisés, les sports collectifs, le foot, etc., c'est vraiment différent, mais ça augmente. Et puis toi, qu'est-ce que tu penses du coup de l'évolution du powerlifting depuis, vu que tu en fais depuis maintenant, tu as dit
8 ans.
Quasiment
enfin,
8, ouais, 8 ans.
Donc, on connaît le milieu depuis 8 ans, quoi.
Voilà, on va dire que tu as commencé quand, on va dire, très peu de monde s'y intéressait, on va dire, des mondes du grand public, parce que c'est vrai que maintenant, on arrive en salle de sport, on parle de power. Enfin, je veux dire, il y a des gens qui connaissent les powers qui sont les plus présents sur les réseaux sociaux. Donc, comment est-ce que tu vois cette évolution et comment tu pressens, on va dire, l'avenir de ce sport ?
Bah, moi, je le disais déjà depuis un moment et je l'ai bien vu que ça fait que de monter en puissance, entre guillemets, hein, parce que même moi-même, dans le power, j'ai mes trucs, j'ai ma marque de vêtements, etc., etc. Et je le vois bien en termes d'influence et même en termes de suivi sur les réseaux sociaux. Ça n'a rien à voir. Quand j'ai commencé le power, un athlète qui avait 5000 abonnés sur Insta, c'était un truc de ouf. Maintenant, il y en a un power qui en a quasiment 200 000, quoi. Donc, ça n'a rien à voir en termes de d'influence. Et puis, il y a vraiment une hype, comme tu le dis, c'est que. Il y a beaucoup de gens qui sont dans le milieu du fitness ou qui sont dans le milieu, on va dire, je sais pas si on peut appeler ça muscu, mais voilà, muscu globalement, ouais. Et qui se redirigent vers le power parce que je pense que, comme je l'ai dit avant, l'aspect purement athlétique et l'aspect qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de hype. Bon, certes, il y a l'argent, mais pour la plupart des gens, ils ne s'imaginent pas arriver au top 12 mondial, quoi qu'il arrive dans leur carrière, s'ils savent très bien que c'est des gens qui ont commencé il y a des années et il y a aussi des prédispositions génétiques. Enfin, il y a plein de choses qui font que, en général, quand tu es débutant, tu ne te dis pas je vais être le meilleur athlète au monde. Tu te dis voilà, je vais faire ce que je peux faire pour être le meilleur, mais ton but en tant que débutant, c'est pas d'être le meilleur athlète au monde. Donc, je pense pas que ce soit l'argent qui les motive, mais plus. Tout ce qui se crée autour, tout l'engouement qu'il y a autour, notamment, comme je t'ai dit, moi j'ai une marque de vêtements dans le power, c'est un networker, on crée des événements qui sont grave cool, tu vois, c'est des trucs que, quand tu commences le sport, et c'est ça qui manquait un peu dans le power avant, c'est que c'était vachement, vachement pas sectaire, mais t'avais des compétitions régionales où c'était fait par des vieilles personnes, c'était toujours la même chose, il n'y avait pas de renouveau, c'était pas très drôle en fait d'y aller parce que tu dois être qualifié pour les France au final, tu vois. Et maintenant, il y a des événements qui sont beaucoup, beaucoup plus ludiques autour de ça. Typiquement, comme je t'ai dit, le Summit Worker Meet, c'est vraiment cool. Genre, t'y vas, il y a du monde, c'est plaisant. Enfin, si tu passes un bon moment avec tes potes un week-end, tu veux faire un truc, c'est vraiment un truc cool, quoi. Et je pense qu'il y a de plus en plus d'événements de la sorte qui font qu'au final, les gens se disent ah ouais, au final, ça peut être cool le power et même c'est cool le power. Et notamment via le fait que les gens le démocratisent sur les réseaux, ça paraît évident. Mais du coup, comme il y a plus de gens, ça fait effet boule de neige. C'est-à-dire que les gens se disent « Ok, maintenant si je veux aller dans un basic fit, je peux aller avec un pote à moi qui fait du power aussi, je vais m'entraîner avec lui, je serai plus tout seul. » Et du coup, c'est beaucoup plus simple de créer un peu une dynamique d'entraînement. Là où avant, il fallait tout faire tout seul, il fallait aimer être solitaire, ce qui n'est pas le cas de grand monde, quoi.
C'est ça. Et puis je pense que c'est un mélange aussi avec la hype, enfin l'engouement avec depuis plusieurs années sur le fitness, la muscu avec les réseaux sociaux. C'est vrai que c'est des mouvements, le deadlift, le squat et le bench que tout le monde, tout pratiquant peut faire de base. Donc c'est vrai de voir toi peut-être qui fais alors un format classique de muscu, je sais pas un 3x6 avec 100 kilos au squat, tu vois des mecs qui soulèvent plus de 300. Enfin je veux dire ça attire l'œil et quand t'es passionné par le sport, tu te dis comment ils font, tu t'intéresses au truc et puis peut-être tu te laisses prendre dans le jeu et tu essayes d'améliorer tes perfs, du coup tu commences à t'intéresser et puis au final tu te lances dedans, quoi.
Oui, et puis même au sein même d'une pratique de muscu, ton principe c'est quand même de rajouter plus de charge sur la barre, tu vois. Dans une certaine mesure, tu fais de la force. C'est juste que il y a rajouter du poids pour rajouter du poids, il y a rajouter du poids parce que entre guillemets, ce que tu veux c'est mettre plus lourd ou juste parce que tu veux prendre du muscle. Enfin, mais dans l'idée, ça revient plus ou moins au même parce que la finalité c'est mettre plus de poids sur la barre. Et donc, si tu arrives à un stade où tu te dis ok, là j'ai essayé de mettre 5 kilos, je fais un PR, c'est le même principe, tu mets plus de poids sur la barre, tu fais un PR, ça peut être sur des exercices qui sont polyarticulaires, ça se rapproche très vite de la force. Et puis après, tout le monde a déjà entendu c'est comme ça en général qu'on y commence, je fais un cycle de force ou un truc comme ça, je fais des rêves un peu plus basses, etc. Et puis c'est comme ça qu'on s'intéresse au power et qu'au final on se rend compte que c'est beaucoup plus compliqué que juste réduire les reps et mettre lourd sur la barre, quoi.
C'est ça. Du coup, moi, c'est un petit peu mon cas. C'est vrai que j'ai fait beaucoup de muscu, donc en gros à peu près 5-6 ans de muscu pur. Et du coup, je me suis mis au power parce qu'avant, c'est vrai que je faisais vraiment un peu du power building, comme on peut dire, tu sais, je commençais jamais, alors j'avais jamais commencé une séance full machine, j'ai jamais fait ce genre de choses, tu vois, j'ai toujours commencé par du squat, du deadlift, du bench. Alors c'est vrai que la finalité c'était pour prendre de la masse musculaire, mais effectivement c'était quand même aussi dans l'optique de pousser lourd parce que c'était vraiment un plaisir de faire ces mouvements et de s'entraîner en lourd. Donc c'est pour ça après que je me suis effectivement lancé dedans. Et comme tu parlais des compétitions régionales, du coup on s'est vu il y a pas longtemps, c'était à la compétition à Le Crès. Il y a un mois je sais pas à toi ce que t'en as pensé, mais effectivement je trouvais que c'était une compète hyper bien organisée, qui organise d'ailleurs, c'est le lieu des prochains championnats de France si je me trompe pas. Et effectivement maintenant c'est vrai que l'organisation de ces compétitions c'était vraiment une ambiance top et vraiment pour moi en tout cas une très bonne expérience pour une première compète, quoi.
Bah, ça, c'est typiquement le genre de compétition qui sont un peu différents de ce qu'on peut voir souvent, parce que bah, bon, c'est organisé par Stéphane Béraud, du coup, c'est le gérant de Force Occitane, Force Occitanie, pardon. Mais il y a une grande dynamique de jeunes autour de ça, en fait. Du coup, ça donne un élan en fait, à la compétition, et il y a des groupes, il y a beaucoup de. En fait, il y a de plus en plus de monde qui se crée, des structures qui sont bien concis, bien faites, qui emmènent les gens, qui font. Enfin, ça change vraiment beaucoup. Et puis, à partir du moment où tu as du monde, tu as de la compétitivité, et donc, du coup, ça rend déjà la compétition beaucoup plus ludique, parce que c'était ça aussi le problème avant, c'est qu'il n'y avait pas grand monde, donc au final tu faisais ta compétition, mais c'était toi contre toi-même. Et maintenant, c'est de plus en plus, même si tu vas à un championnat régional, tu auras au moins 3-4 personnes dans ta gâtée, et de plus en plus des mecs qui sont pas mauvais. Et donc ça, c'est toujours cool dans une certaine mesure, quoi.
Voilà, c'est cool parce que effectivement, comme tu l'as dit, si tu es vraiment haut, bon, ça peut toujours arriver évidemment de faire un championnat de régional et d'être au-dessus du lot parce que c'est vrai que c'est, je pense, c'est à part, c'est juste avant les championnats de France, donc on va dire qu'il y a vraiment de tout en termes de niveau. Il y a des personnes qui vont commencer, des personnes qui vont chercher leur qualif pour les France, mais on va dire que nous, par exemple, moi j'ai concouru en moins de 93 et effectivement, c'est vrai que bah, il y avait 14 athlètes quand même. Quand je suis passé dans la caté quoi, donc c'est vrai que ça fait quand même pas mal de monde et bah, c'est toujours kiffant parce que effectivement tu fais ta compète, tu vois le score des autres, tu as envie de te dépasser, même si à la base effectivement bon, sur une première compète tu le fais plus ou moins pour toi pour prendre de l'expérience, mais voilà, c'est toujours kiffant d'avoir cette sensation. Et c'est vrai que quand on fait de la muscu, c'est vrai que tout ce qui va être compétition, etc., on l'a pas, à moins de faire du body, mais c'est vrai que c'est quand même assez différent. Donc, c'est vrai que c'est toujours un kiff d'avoir cette sensation de compétition et de rivalité, quoi.
Puis dans une certaine mesure, ça te tisse des liens aussi avec des gens qui pratiquent le même sport que toi, et c'est ça qui est cool, tu vois. C'est quand tu vas dans une compétition, tu sais que tous les gens qui sont là, ils savent ce que tu fais, ils font la même chose, ils ont vécu plus ou moins la même chose, et forcément, le fait d'avoir des points communs, ça te rapproche, que tu le veuilles ou non, quoi.
C'est ça, c'est ça. Tout le monde a le même objectif. On sait que voilà, les entraînements de power, etc., c'est pas facile. Ça demande quand même pas mal de mental, etc. Parce que mine de rien, c'est vrai que la plupart du temps, bah, t'es quand même, enfin moi en tout cas, et je sais qu'il y a pas mal de monde dans ce cas-là, tu es tout seul, tu arrives dans ta séance tout seul, etc. Donc tu peux être suivi, coaché, mais c'est vrai que tu es tout seul. Et c'est vrai que c'est un effort qui est pas facile. Après, quand on est passionné, c'est toujours un plaisir de le faire. Mais tu vois, donc on sait à peu près les efforts que tout le monde fait. Par exemple, moi j'imagine les efforts que tu fais pour en arriver là. Donc tu vois, il y a aussi ce respect un peu par rapport à ça mutuel, par rapport aux efforts que chacun fait de son côté, quoi,
Bien sûr,
pour arriver.
bien sûr. Ouais, après, enfin, comme tu l'as dit, ça paraît évident, mais ce qui est aussi un grade en power, c'est que comme tu vois, comme tu progresses, parce que je l'ai dit par rapport aux chiffres, tu vois aussi quand tu progresses pas. Ou en tout cas quand ça va moins vite. Et ça peut être très très rageant rapidement. Parce qu'en body, en fait, tu fais ta séance, tu t'attends pas à ce que tu prennes un demi-centimètre de biceps par séance, tu vois ce que je veux dire? Alors qu'en power, si tu mets 10 kilos moins sur la barre, bah, tu vois directement. Et ça, du coup, ça peut être. Enfin, on va dire que psychologiquement, ça peut être dur. Et c'est vraiment une approche différente du body, du coup, parce que bah tu vois tout en fait. Que ce soit bien ou pas, tu vois tout. Et donc du coup, ça te force, je trouve, à être encore plus rigoureux dans ta pratique. Parce que tu peux pas te voiler la face, entre guillemets, quand tu fais quelque chose mal ou quand tu fais quelque chose bien, t'as la réponse directement sur tes charges, quoi.
Ouais, c'est ça. Ouais. Et puis, bah, ça peut être démotivant, comme ça peut être motivant aussi à redoubler d'efforts pour dépasser ces paliers. En fait, je pense que ça peut aussi la différence entre les personnes qui peut-être atteignent un très haut niveau et les personnes qui stagnent un peu plus ou moins. C'est peut-être cette remise en question et dépasser ces paliers que bah, finalement tout le monde rencontre, quoi. Personne
Bien
n'est
sûr.
en phase linéaire.
Ben non, non, ça n'existe pas. Enfin, quand tu débutes peut-être, surtout quand tu as un gros background de muscu, parce que tu as une grosse masse musculaire, donc tu as un gros potentiel de force, mais tu arrives très rapidement pas un plateau, mais tu arrives très rapidement à. C'est plus compliqué que juste mettre plus 5 kilos sur la barre toutes les semaines, quoi.
C'est
Ça,
ça.
c'est évident.
Et du coup, alors toi, comment est-ce que, pour expliquer un petit peu aux personnes qui ne connaissent pas, comment se passe un petit peu une prépa pour une compétition, que ce soit à quoi se résument un peu tes entraînements, on va dire off-season et prépa de compète? Est-ce qu'il y a une réelle différence entre ces deux phases, on va dire, qui peuvent être là dans ton training? Et est-ce que à côté de tous les mouvements de power que tu fais, donc squat, bench, deadlift, et des variantes que tu peux apporter, est-ce que tu fais aussi des mouvements de renfo, des mouvements de muscu à côté?
Alors, dans un premier temps, j'ai pas vraiment de différence entre un entraînement off-season et du coup proche d'une compétition. Là où il va y avoir plus de différence, c'est la pression que je me mets ou que je vais avoir, puisque forcément, si j'ai pas d'échéance, bah, je suis un peu plus cool, même si en réalité je le suis pas, mais c'est juste que j'ai pas vraiment cette épée de Damoclès sur la tête qui dit, OK, dans 3 semaines, tu vas être sur un plateau avec les meilleurs athlètes au monde et tu dois performer, tu vois. Donc, c'est plus cool, notamment quand t'as des mauvaises séances ou t'as des choses qui se passent pas comme tu le veux, tu l'acceptes plus facilement et. Tu vois, c'est plus simple de prendre du recul dessus que quand bah, voilà, tu sais que dans 2 semaines, tu dois performer. En fait, si tu veux, j'ai pas de phase où je vais me dire je vais faire ça ou je vais faire ça. Mais sans le vouloir, vu qu'il y a des phases où j'ai plus de stress mental que d'autres, ça va influer sur mon entraînement, sur les charges que je vais mettre, etc., etc. Mais je vais pas me dire voilà, par exemple, je fais du volume plus loin ou quand je me rapproche, j'ai pas de progression linéaire ou de programme linéaire où je descends mes reps, j'augmente mon intensité, ça n'existe pas trop. J'ai une approche sur toute l'année en fait, où tout simplement, je pars du principe que bah ce que je dois faire pour progresser évolue par rapport à ce que j'ai fait avant, mais par rapport à qui je suis aussi et ce dont j'ai besoin. Et donc de bloc en bloc, en fait, je construis vraiment de bloc en bloc et je peux avoir des changements. Comme pas de changement, parfois je peux enchaîner deux trois blocs qui sont quasiment les mêmes. Parfois il peut y avoir des grosses différences. Honnêtement, il n'y a pas de c'est pas écrit dans le marbre. Je prévois pas mes blocs 6 mois à l'avance. Tout est fait vraiment pas au pif évidemment, mais sur le moment et de bloc en bloc quoi. Je vais faire mes adaptations en fonction de ce que j'ai besoin parce que bah, évidemment je me connais bien vu que ça fait un moment que je pratique et surtout c'est comme ça que j'ai toujours fonctionné. C'est comme ça que je fonctionne et c'est comme ça que je pense que la programmation est le plus pertinent. Programmer à l'avance en réalité ça montre qu'il n'y a pas d'individualisation puisque du coup je pourrais programmer mes 6 prochaines années d'entraînement si je voulais en théorie. Sauf que bah, je me doute bien que la théorie et la pratique c'est deux choses différentes et même si je fais un plan qui est entre guillemets parfait pour me faire squatter 500 kilos dans 6 ans, je me doute bien que ça va se passer comme ça. Donc j'ai vraiment une approche différente où je pars de l'individu, je pars de l'athlète et je construis un programme plutôt que construire un programme et entre guillemets envoyer mon athlète ou l'athlète moi qui c'est moi en question dans mon programme.
D'accord, ok. Et du coup, si je me trompe pas, alors depuis un moment, alors je ne sais pas si ça a toujours été le cas, t'as pas de coach, tu te coaches tout seul, tu prends tes décisions seul. Est-ce que du coup, tu as déjà fait appel à un coach pour.
J'ai eu un coach pendant à peu près un an, un coach américain qui s'appelle Jim Ely, il travaille avec Reactive Training System. C'est une
D'accord.
boîte américaine de coaching en force.
Et du coup, comment est-ce que tu arrives à prendre du recul justement sur tes performances et arrives à justement prendre les meilleures décisions? Parce qu'on sait que je pense qu'il y a très peu d'athlètes qui n'ont pas de coach, notamment en power. Tu dois être un des seuls, non? Surtout à haut niveau.
Ouais, il y a aussi Pana, The Panache, qui n'a pas
Ouais.
coaché. Et je pense que dans l'équipe de France, on est quasiment les deux seuls, si je réfléchis bien.
Ouais. Ouais, c'est
Ouais, il me
assez rare,
semble.
c'est vrai. Parce que c'est vrai qu'il y a cet aspect aussi, avoir quelqu'un qui prend des décisions qui sont potentiellement plus pertinentes, sachant qu'il n'y a pas cet aspect,
Tu te biaises pas toi-même, quoi.
ouais, j'ai ça, j'ai mon ego peut-être et je prends pas les bonnes décisions, par exemple, arriver à une échéance, etc. Alors, est-ce que tu gères vraiment tous tes matchs seuls de A à Z? Est-ce que tu as des personnes qui t'aident aussi à prendre du recul sur certains choix? Et justement, comment tu vois la chose et comment tu trouves ça justement plus pertinent, toi, de prendre tes décisions seul que d'avoir un
Alors,
coach, effectivement?
en termes de programme, personnellement, oui, je fais tout seul. Donc, j'ai personne qui m'aide. Même si j'ai des personnes de confiance avec qui je sais que je peux discuter, je peux exprimer mes opinions, je peux avoir les leurs. Et donc, du coup, parfois, ça peut me faire prendre du recul sur ce que je pense ou non. Mais de manière générale, c'est pour ça que je suis capable de me coacher moi-même, c'est que je suis vachement objectif. Bon, déjà, de un, je coach, donc je connais plus ou moins les travers qu'un athlète peut avoir, et du coup, je peux les identifier sur moi-même. Et deuxièmement, je suis vachement objectif avec moi-même, c'est-à-dire que bon, je pense que comme tous les athlètes de haut niveau, j'ai même tendance à être trop dur avec moi plutôt que trop souple. Mais surtout, je sais quand c'est trop et je sais quand c'est pas assez, et j'arrive vraiment à avoir cette neutralité où je me dis en fait, quand je suis ma progra, je suis mon coach, je suis pas l'athlète, tu vois.
Ouais.
Donc je fais ce que je dois faire en tant que coach, et c'est comme si je séparais ma personnalité en deux en fait, quoi.
Ouais.
Quand je m'entraîne, je suis l'athlète, et quand je dois prendre du recul sur ce que je fais, je suis le coach, quoi.
C'est ça.
Et du coup, c'est vraiment c'est particulier, mais après, j'ai toujours fait comme ça, j'ai pris l'habitude. Et comme je t'ai dit, je pense que en fonction des caractères, tout le monde ne peut pas le faire, et tout le monde ne devrait pas le faire non plus, parce que c'est une chose de pouvoir le faire, mais pour optimiser sa performance, parfois, ça peut être plus intéressant d'avoir quelqu'un quand même pour qui avec qui discuter, etc. Et c'est pour ça que je sais que si j'en ai besoin, c'est le cas.
D'accord.
Maintenant, pour les matchs en termes de compétition, donc si je vais aux compétitions, vu que je suis ultra ancien dans mon entraînement, je vais prévoir tous mes matchs à l'avance. C'est-à-dire qu'avant même la compétition, j'ai, on va dire, envisagé toutes les options que ça peut prendre et je sais plus ou moins que si ça prend ce côté-là, en gros, j'ai un plan B, C, D jusqu'à Z, quoi. Et en général, tout est prévu. Maintenant, il y a toujours des gens, encore une fois, de confiance, des coachs qui sont en équipe de France avec qui je discute et avec qui j'adapte en fonction de ce qui doit être fait. Parce que ben, ce que moi je veux à une compétition, c'est pas forcément ce qui va se passer. Parce que quand je pars en compétition internationale, je suis athlète pour l'équipe de France. Et donc, bah, j'ai une charte que je signe, etc. Ce qui fait que je dois rendre des comptes à l'équipe de France. Et s'il y a des choix à faire, parfois, ils vont être faits stratégiquement pour pouvoir apporter des points à l'équipe, par exemple à l'équipe de France pour le match au global, ou pour avoir des titres, pour avoir des podiums, enfin machin, etc. Alors que moi, c'est pas ce que je voudrais faire, je me sentirais de faire autre chose. Mais malheureusement, c'est comme ça. Et c'est pour ça qu'il faut comprendre ça aussi, c'est que quand on est athlète en équipe de France, et quand on part en compétition internationale, ça n'a rien à voir avec une compétition qu'on fait entre guillemets pour soi, puisqu'on est sous l'égide de l'équipe de France et on n'est plus tout le temps décisionnaire de ce qu'on fait, quoi.
C'est ça. Alors que quand tu es dans une compète, un championnat de France, ouais, parce que tu représentes pas l'équipe de France en théorie,
Non,
là,
c'est
tu peux gérer ton match vraiment comme
ah,
tu
mais
l'entends pour avoir
oui, ça veut
le.
dire que par exemple, je te coupe, excuse-moi, mais si par exemple je mets une deuxième barre au terre avec 350 et que je gagne et que en troisième barre je vais mettre 400 kilos parce que pour m'amuser, je peux le faire. En équipe de
Ouais, c'est
France, ça
ça.
n'arrivera jamais, quoi. C'est-à-dire qu'on va
Ouais.
toujours sécuriser une barre que je vais pouvoir faire pour augmenter mon total, pour être sûr que personne puisse me rattraper au total, pour faire un record du monde, pour prendre un record du monde au soulevé de terre. Enfin, il y aura toujours quelque chose à gratter. Alors que bah, quand c'est que pour moi, si moi, reprendre un record de France ou un record du monde, ça m'intéresse pas forcément, bah, je peux mettre la barre que je veux, quitte à avoir 1% de chance de la réussir, quoi.
C'est ça. Et puis il y a un classement à chaque fois, effectivement, des délégations, parce que au dernier championnat d'Europe, je crois que l'équipe femme a été la meilleure délégation, enfin le collectif France pour les femmes a été la première de toute l'Europe. Et homme, je crois que ça a été deuxième, il me semble, c'est ça, si je me trompe pas.
Deux ou
Je
trois,
crois.
effectivement, je sais
Ou
plus
peut-être trois,
exactement.
ouais, peut-être derrière la Grande-Bretagne et
Il y avait Grande-Bretagne, c'est sûr, devant, il me semble, et après il y avait Suède, je crois.
ah peut-être, ouais, effectivement, peut-être troisième. Mais en tout cas, ouais, la délégation cherche à être classée. Le
Oui.
mieux possible, effectivement, par rapport aux autres,
Encore
quoi.
plus de notre côté, puisque bah, nous, du coup, on est athlètes de haut niveau, c'est-à-dire qu'on est sur liste ministérielle en FF Force. Et donc, du coup, bah, le sport est financé par le ministère. Ce qui veut dire que nous, quand on est envoyé en tant qu'athlète, c'est payé. On ne paye pas, en fait, pour faire ces compétitions. Là où la plupart des nations ne sont pas des sports officiels, c'est-à-dire que ce n'est pas des nations délégataires pardon, de ministériels, ce qui veut dire qu'ils payent leur propre trajet et tous leurs frais. Donc, nous, à partir du moment où on est payé, on est sous l'égide du ministère. Et donc, bah, on doit rendre des comptes, on doit ramener des titres pour que, du coup, la fédération puisse avoir des subventions, etc., etc. Et c'est là où ça amène un peu la nuance avec la plupart des pays qui, entre guillemets, bah, font ça on va dire, je sais pas si c'est moins professionnel, mais ils n'ont pas cette obligation de performer, même si évidemment c'est ce qu'ils recherchent, mais ils n'ont pas cette obligation de ramener des titres. Ils peuvent vraiment faire plus ou moins leur choix lors de la compétition, quoi.
Ouais, tu fais pour toi, tu fais entre guillemets ce qui est le mieux pour le pays. Bon, dans 95% des cas, ce qui est le mieux pour toi, c'est ce qui est le mieux pour le pays parce que c'est gagné, effectivement. Mais effectivement, il y a des décisions à adapter légèrement pour pas y aller solo dans ton coin. Et effectivement, tu dois rendre des comptes, comme tu l'as dit. Et c'est vrai qu'au niveau des subventions, d'ailleurs, tout est pris en charge à 100% quand tu fais un déplacement, notamment pour des championnats du monde.
Donc le billet, l'hôtel, tout ce qui compte dans ton voyage est pris en charge.
D'accord, ok. C'est cool parce que c'est vrai que bah, c'est un sport quand même, voilà, où quand tu es amené à faire de la compétition à l'international, tu as pas mal peut-être de déplacements dans l'année. Et toi, en tant que coach, par contre, quand tu vas, par exemple, suivre potentiellement un athlète sur une compète à l'international que tu ne fais pas, comment est-ce que ça se passe là? Par contre, c'est à tes frais, effectivement?
Alors, c'est à tes frais déjà, mais en fait, si tu veux, il y a des coachs de l'équipe de France. C'est-à-dire que c'est ben, le DTN, le directeur technique national, et des coachs qui sont pris à l'avance, puisque en fait, chacun ne peut pas ramener son propre coach, sinon ça serait très compliqué.
Ouais.
T'imagines bien que ben, la plupart des coachs voudraient y aller. S'il y a 15 coachs différents, ça fait 15 personnes qui représentent l'équipe de France, d'autant plus qu'ils représentent l'équipe de France. Donc, c'est-à-dire que leur comportement est directement, entre guillemets, tamponné France. Donc, c'est pour ça que tout le monde ne peut pas aller en compétition internationale et tout le monde ne peut pas coacher en compétition internationale. Donc, moi-même, j'ai des athlètes qui sont en équipe de France et je suis là en tant qu'athlète et entre guillemets, je suis sur la charte, mais je ne peux pas être présent pour leur match en tant que coach. C'est-à-dire que c'est
Ouais.
les coachs équipe de France qui vont gérer ça et moi, je vais rester dans les tribunes pour regarder, simplement parce que je n'ai pas le tampon coach équipe de France, quoi.
D'accord. Donc, par exemple, quand, par exemple, à la compétition à Lecrest, tu étais là, on va dire, dans les backstage, c'est parce que c'était enfin, en train de coacher derrière pour gérer le match de ton athlète. C'était parce que c'était une compétition régionale et qu'effectivement, chaque coach pouvait être là avec
Exactement. Mais
sa personne.
en compétition internationale, c'est différent parce qu'en fait, pour accéder à la salle de chauffe, tu dois, enfin, il y a tout un processus. Tu dois t'inscrire sur des listes avant la compétition. Tu dois être approuvé par la fédération et tu dois être envoyé du coup par ta fédération de base qui est ben, du coup ton pays et ensuite approuvé par l'IPF en
D'accord.
théorie pour être coach. Après, il y a un petit peu des dérives, mais de manière générale, la France est très stricte là-dessus. Il y a 3 à 4 coachs qui sont choisis au début de la compétition et c'est les seules personnes qui pourront avoir accès à la salle de chauffe et du coup être en match avec, enfin gérer le match des athlètes.
D'accord, ok. Ouais, c'est vrai que c'est pour pas que ça parte non plus dans tous les sens, parce qu'après,
Oui, oui.
ce serait compliqué. Et puis, ouais, ce serait représenter la fédération. Donc, si quelqu'un fait n'importe quoi, effectivement, c'est la fédération qui prendrait.
Exactement. Et encore une fois, la fédération, puis le ministère, puisque le ministère est là-dedans, c'est pour ça qu'il y a autant de restrictions et c'est pour ça que c'est aussi carré, entre guillemets, notamment pour la France, quoi.
Ouais. Après, c'est plutôt une bonne chose parce qu'effectivement, c'est quand même quelque chose de super d'avoir des subventions, etc. pour ça. Parce que c'est vrai que bon, bah, quand tu compares un sport qui est un peu moins officiel, le body, c'est vrai que bah, là, je pense que tu as zéro, hein, même si t'es, parce que tu n'es pas considéré comme, comme ça, athlète de haut niveau. C'est ça la différence, effectivement, et du coup, beaucoup moins de subventions. Et du coup, ouais, je voulais juste revenir sur une question. Alors, c'était celle, est-ce que tu, à côté des gros mouvements, donc est-ce que tu pratiques des mouvements de muscu pour tout ce qui va être renfo, etc. ou est-ce que tu l'as fait par le passé et maintenant tu n'en as moins besoin, plus besoin? Comment est-ce que ça se passe?
Honnêtement, je ne l'ai quasiment jamais fait. Donc, j'ai fait ma période de muscu avant, bah, comme je l'ai dit, avant de faire du power. À partir du moment où j'ai commencé du power, 99% du volume d'entraînement que j'ai, c'est SBD. Parfois, ça peut m'arriver d'avoir des exercices annexes, mais c'est plus par dépit que par volonté. Donc, bah, typiquement, la semaine dernière, j'étais malade, j'ai chopé plus ou moins les symptômes de la grippe. J'avais des grosses chutes de tension, donc j'avais plus à brace. Donc, je ne pouvais pas vraiment faire de squat. Donc, bah, j'ai fait de la presse parce que si je faisais du squat, je tombais dans les pommes. Mais si j'avais pu faire du squat, j'aurais fait du squat, quoi. Ça m'arrive parfois de faire des exercices comme ça par dépit ou parce que dans certaines mesures, ça peut être intéressant. Par exemple, quand je suis dans une période de deload où je veux réduire un peu la charge de travail, ça m'arrive parfois de remplacer un squat par une presse ou un truc comme ça. Mais c'est très, 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 très rare. Et franchement, je peux les compter sur le doigt d'une main dans la dernière année, les fois où j'ai fait autre chose que du SBD, quoi.
D'accord, ok. C'est vrai que ça, c'est. Alors, je pense que y a pas. C'est comme en muscu, il n'y a pas de façon universelle de faire qui marche pour tout le monde à tous les coups. C'est vrai que ça, il y a des athlètes qui fonctionnent très bien, effectivement, qui font des mouvements annexes, de renfo, etc. D'autres qui fonctionnent très bien et qui font comme toi que du SBD quasiment à, comme tu as dit, à 99,9% du temps. Donc ça, c'est pareil, c'est une philosophie d'entraînement. Ça dépend de ton expérience, de ce que tu as fait et de ta vision de la chose, quoi.
Oui, dans une certaine mesure. Après, ça dépend aussi de ce que l'athlète a besoin. Moi, comme je l'ai dit, je suis coach. Il y a des athlètes pour qui je mets du renfo, il y a des athlètes pour qui je n'en mets pas. Ça dépend un peu. Ça dépend vraiment de l'individu, de ce que la personne a besoin, depuis combien de temps elle pratique le sport, sa quantité de poids, de comment elle se comporte. Il y a plein de choses qui vont faire que potentiellement ça peut être intéressant de mettre d'autres exercices. Après, en fait, si tu veux, moi, je pars du principe que l'analogie que je donne toujours, c'est en gros, tous les matins, je me lève, on me donne un billet de 100 €, c'est ma capacité de récupération et c'est moi qui choisis dans quoi je l'investis, tu vois. Moi en l'occurrence en tant qu'athlète de niveau, il y a 99 € qui partent dans l'entraînement et 1 € dans le reste de ma vie pour que je puisse quand même vivre, évidemment, mais du coup ces 99 €, je choisis de les investir soit dans une pratique spécifique, donc on va dire du SBD, soit dans d'autres exercices qui sont du renfo. Ça, après, voilà, c'est l'analogie de base. Après, évidemment, être trop spécifique, ça n'a pas forcément d'intérêt. Et c'est surtout que, en fait, je ne pense pas qu'il faille rechercher la spécificité. C'est-à-dire que moi, ce que je recherche en tant que coach, c'est la performance. C'est-à-dire que c'est mon athlète performe. Et s'il a besoin de faire du renfo pour performer, je le ferai. La question, c'est juste d'analyser pourquoi il a besoin de faire du renfo. Et est-ce que c'est vraiment du renfo qu'il a besoin? Ou est-ce que c'est parce que je lui mets du renfo qu'il y a eu un changement dans son entraînement qui a fait que du coup, il a progressé? Et peut-être que je pourrais avoir la même adaptation en faisant des mouvements qui sont plus spécifiques. Et donc, dans ce cas, il n'en a pas besoin. C'est juste, en fait, moi, en tant qu'athlète, en tant que coach, je ne veux pas être biaisé par le fait que c'est mieux de faire du SBD ou c'est mieux de faire ci ou ça. Je veux juste faire ce qui fonctionne pour mon athlète. Et si, en l'occurrence, je fais faire du renfo qui progresse et qu'il n'y a rien d'autre qui fait progresser comme ça, je devrais faire du renfo, quoi. C'est aussi simple que ça.
C'est ça. Et puis, ouais, encore une fois, chacun a sa génétique, chacun a ses caractères vraiment individuels. Donc, c'est pour ça que c'est pas mettre du renfo pour mettre du renfo parce que voilà, c'est ma façon de faire et puis je fais que comme ça. Non, c'est le faire pour un besoin effectivement bien spécifique comme tu l'as rappelé. Et du coup, ouais, effectivement, il y avait une question qui m'interpellait, c'est comment est-ce que toi du coup tu gères un petit peu ta récupération nerveuse? Je pense que c'est pas mal de gens du coup se posent cette question parce que en story, on voit que régulièrement dans la semaine, tu es sous des très grosses barres donc qui ont un gros impact au niveau de ton système nerveux. Comment est-ce que tu fais du coup pour gérer ça, pour récupérer de manière optimale, que ce soit au niveau du système nerveux ou du système musculaire, pour éviter d'avoir trop de tension, par exemple dans une zone, par exemple les lombaires, ce genre de choses. Comment est-ce que tu fais? Comment est-ce que tu gères ça?
Bon, déjà, évidemment, il y a les trucs de base. Comme je l'ai dit, bah, je suis athlète de haut niveau, donc pour moi, il y a des choses qui sont évidentes, mais bah, je dors autant que j'en ai besoin. Si c'est 10 heures, c'est 10 heures. Si ça doit être 12 heures, c'est 12 heures. Enfin, là-dessus, je n'ai pas de réveil. Je me réveille quand je dois me réveiller. Donc, ça, c'est la première chose. Je fais en sorte de toujours avoir autant de sommeil que ce dont j'ai besoin. Je mange bien globalement. On va dire que je suis le genre de personne, je ne suis pas forcément attiré par tout ce qui est fast food, etc., etc. J'aime bien me faire à manger moi-même. Donc, dans la grande majorité des cas, je mange bien. Et beaucoup évidemment parce que bah, je suis lourd, donc forcément il faut quand même que je puisse maintenir mon poids, voire prendre du poids si j'en ai envie, enfin en tout cas que je puisse gérer mon poids comme il le faut, ce qui fait que je mange beaucoup. Et comme je l'ai dit, bah, vu que je suis athlète, enfin, toute ma vie est centrée autour de l'entraînement. C'est-à-dire que ma priorité numéro un à chaque jour où je m'entraîne, c'est mon entraînement. Et tout le reste, c'est annexe. Donc forcément, mentalement déjà, bah, ça reste mon focus numéro un, ce qui fait que ça aide beaucoup, puisque je ne vais pas me fatiguer à faire d'autres choses. En tout cas, si c'est le cas, ça va être toujours en secondaire après mon entraînement. Et après, ben, j'ai envie de te dire que comme tout stress, tu t'y adaptes. C'est-à-dire que j'ai pas commencé en faisant 3 séances lourdes par semaine et j'étais en mode ok, je vais le faire quoi qu'il arrive. Petit à petit, ça fait quand même un moment que je pratique. J'ai su m'adapter entre guillemets à cette charge de travail et je vais pas mentir, dans la vie de tous les jours, quand je sors d'entraînement, je suis claqué. Genre si je devais avoir un métier classique, on va dire où je devais me lever tous les matins à 7h, finir à 18h, etc. tous les jours, ça serait très compliqué. Alors non pas que j'ai pas de charge de travail, j'ai quand même beaucoup de choses à faire à côté et je travaille sûrement autant que si j'avais un métier classique. C'est juste que je suis beaucoup plus libre de le faire quand je veux et vu que je suis mon propre boss entre guillemets, bah j'ai pas cette charge de mental de je dois rendre des comptes, c'est-à-dire que je fais les choses quand je veux et ça aide beaucoup. Donc voilà, c'est là-dessus, c'est vraiment là-dessus que ça joue le plus entre guillemets, c'est que vraiment toute ma vie est construite autour de mon entraînement, peu importe quand c'est, et il faut le comprendre à quel niveau ça va. C'est, je veux dire, pour moi c'est vraiment ma priorité numéro un, que qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il vente, que ce soit Noël, Nouvel An, que j'ai des amis, que j'ai, peu importe, ma priorité numéro un ça restera toujours l'entraînement et ça peu importe les conditions qu'on fixera quoi.
C'est ça. J'avais vu une vidéo d'ailleurs qui était intéressante sur ça, parce que c'est vrai que c'est difficile de, par exemple, de s'inspirer. Par exemple, c'est pour ça que de toute manière, je suppose que tu le déconseilles, mais de s'inspirer, par exemple, de ton entraînement pour quelqu'un, effectivement, même qui a un bon niveau, mais qui a un métier peut-être physique, etc. Il y aura sûrement des adaptations à faire. Et c'est vrai que c'est difficile parce que c'est vrai que même si tu travailles, comme tu l'as dit, t'adaptes, on va dire, tes horaires, etc. par rapport à ça, tu peux placer ton entraînement au moment où tu préfères, où tu te sens le plus fort. Alors que forcément, je sais pas, quelqu'un qui a un métier classique va peut-être s'entraîner le soir à 19h quand c'est blindé, donc quand la salle est blindée. Donc c'est vrai que c'est pas mal de petites choses qui font que tu es dans les meilleures conditions pour performer, quoi.
Ça, et puis en fait, indépendamment du métier que tu as, il y a aussi simplement la personne que toi tu es, tu vois, en fonction de ton niveau, en fonction de qui tu es en tant qu'individu, donc tous les paramètres qui font que tu es un individu, c'est-à-dire plus ou moins ta génétique, bah t'as pas besoin de la même chose. C'est parce que moi je fais quelque chose et que je suis bon en faisant ça, que tous les gens qui ferait la même chose que moi deviendrait aussi bon que moi ou aurait le même parcours que moi. Ça fonctionne pas aussi facilement que ça. Comme tu l'as dit, il y a un background, c'est-à-dire que ce que je fais maintenant, je le fais après avoir fait tout ce que j'ai fait avant. Donc forcément ça a eu des influences et surtout la personne que je suis à l'heure actuelle, bah c'est moi, mais c'est pas la même que j'étais il y a 6 mois et c'est pas la même que j'étais encore 6 mois avant. Et même si c'était le cas, tout le monde ne suit pas un schéma classique. C'est-à-dire que en théorie, si quelqu'un reprenait tous les entraînements depuis le début de quand j'ai commencé et faisait exactement la même chose que moi jusqu'à là où j'en suis maintenant, bah il aurait pas mon niveau, simplement parce que c'est pas moi en fait. Et c'est ça qu'il faut prendre en compte, c'est qu'il y a plein de choses qui font que je deviens moi et que quelqu'un d'autre est quelqu'un d'autre en fait. Et ça, du coup, ça c'est tout simplement le principe même de base de l'entraînement, c'est l'individualisation, c'est que chacun a besoin de faire ce qu'il a besoin de faire, et chacun a ses problèmes, chacun a, on va dire, ses points forts, chacun a ses points faibles, enfin chacun a ses paramètres qui font que son entraînement doit être adapté pour lui et pas pour quelqu'un d'autre, quoi.
C'est ça, je pense que c'est quelque chose que certaines personnes, alors peut-être plus des débutants, ont du mal à cerner quand ils regardent les réseaux sociaux. Ils se disent, bah voilà, je vais faire comme lui, donc je vais faire les efforts et je vais avoir son niveau. Mm-hmm. Peut-être au bout de 5 ans, j'aurai son niveau. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est un petit peu biaisé, parce que souvent, en plus, en power, c'est difficile de se rendre compte de l'entraînement de quelqu'un via les réseaux, parce que souvent, c'est les top 7 qui sont postés. Alors en story, des fois un peu plus, mais en post. Donc effectivement, on a l'impression quand on regarde le feed que la personne elle s'entraîne toujours a priori à côté, enfin à quasiment au max. Et effectivement, en réalité, ben voilà, on poste rarement tous les back-off, tout le travail technique, etc. Donc c'est vrai que c'est un peu biaisé, quoi.
Ouais, comme tu l'as dit. Et puis en fait, même indépendamment de ce qu'on voit, c'est-à-dire que pour un débutant, il faut bien commencer quelque part. Et dans l'idée, il vaut mieux, pour moi, prendre un 5x5 de Jim Wendler ou prendre mon entraînement, ça revient exactement à la même chose. C'est pas adapté à toi, mais l'un comme l'autre, c'est pas adapté. Donc en soi, si ça te motive, enfin si un débutant est motivé par le fait de faire le même entraînement que moi, je peux le comprendre et ce sera toujours mieux que, entre guillemets, aller à la salle et faire ça à l'arrache. C'est juste que il faut comprendre que c'est pas parce que je le fais que tout le monde doit le faire et tout le monde ne doit pas le faire de la même manière, et il faut réussir à s'écouter. Et c'est là justement où, avec l'expérience, tu t'es de plus en plus meilleur à ça. En fait, simplement, c'est que tu comprends ce qui fonctionne pour toi, ce qui fonctionne pas. Tu arrives à adapter ton entraînement en fonction de ce dont tu as besoin, comme je le dis, quoi. Et c'est là toute la nuance, et c'est là la complexité un peu du sport, parce que il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en compte dans la performance. Il y a la gestion de ton poids, il y a la gestion de tes techniques, il y a juste ton niveau de force, donc à quel point tu peux générer de la force à une articulation en question, mais à quel point tu peux générer de la force sur toutes tes articulations en question, puisque c'est des mouvements qui sont polyarticulaires. Donc il y a tellement de choses, et c'est tellement complexe comme façon de voir la performance, que souvent, en fait, c'est là où il faut justement prendre du recul et se dire, en fait, on n'est pas à l'heure actuelle, et je pense qu'on ne sera jamais assez avancé pour pouvoir vraiment, on va dire, isoler chaque variable et les optimiser une par une, puisque déjà elles fonctionnent en système, et même si on était capable de le faire, on change sans arrêt. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit, le mois d'il y a 3 mois avait peut-être besoin de quelque chose, mais le mois de dans 3 mois aura besoin peut-être de quelque chose de totalement différent. Et ça, ça rentre pas seulement sur mes paramètres physiques, mais aussi mes paramètres psychologiques. Et donc, du coup, c'est pour ça que je conseille aux gens souvent d'avoir une approche empirique, et c'est ça, en fait, plus ou moins l'individualisation à l'entraînement, c'est une approche empirique, c'est-à-dire faire ce qui fonctionne, enlever ce qui fonctionne pas, et essayer de comprendre pourquoi ça fonctionne pas et faire des ajustements comme ça. C'est pour ça que je parlais justement de pas programmer 6 ans à l'avance, puisque c'est impossible, c'est littéralement impossible de, comme j'ai dit, d'isoler toutes les variables qui font que je progresse, et surtout de les isoler. Enfin, si je les isole, je vais réussir à les isoler à un temps T, mais c'est possible que dans 2 semaines elles soient plus du tout pertinentes, quoi.
C'est ça. Donc ouais, bon, pour résumer, je pense, de la chose, pour comprendre effectivement comment construire son entraînement, et si jamais c'est trop compliqué, et voilà, pour être sûr d'optimiser tout, bah, je pense que ça peut être intéressant, surtout dans cette discipline, de prendre un coach quand on est débutant, effectivement, pour gagner du temps. Alors après, on peut totalement faire ce travail de recherche soi-même. Après, ça dépend, je pense, du temps qu'on a à investir dedans, et de l'envie qu'on a d'investir dans ses recherches personnelles, quoi.
Après, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'indépendamment de la connaissance, un coach, ça n'apporte pas que ça. Typiquement, la plupart des athlètes de haut niveau connaissent leur sport, connaissent leur corps mieux que plus ou moins n'importe qui d'autre sur cette planète. Mais comme tu l'as dit, ça amène en fait un esprit, ça amène une deuxième personne avec qui discuter, avec qui faire des choix, et parfois juste à qui laisser la responsabilité, pour d'autres à qui prendre les responsabilités. Enfin, en fait, il y a plein de choses qu'un coach peut être en fonction de ce que l'athlète a besoin que le coach soit. Et c'est pas simplement juste créer un programme pour la plupart des cas, quoi.
C'est ça. C'est ça, et puis bah, comme un coaching avec suivi, enfin, il y a tout un suivi derrière, et effectivement jusqu'au match, et etc., et toutes les adaptations techniques qui peuvent être là, surtout pour un débutant, effectivement. Donc et je voulais revenir sur un point, parce que tu en as parlé tout à l'heure, comment est-ce que, du coup, tu traques un peu ta diète? Est-ce que tu manges bien, comme tu l'as dit? Je pense que tu manges bien déjà pour pas te blesser, parce qu'effectivement, si on commence à manger fast food tous les jours quand on est athlète de haut niveau, ça va vite partir en cacahuète et on va vite se créer des inflammations. Mais est-ce que tu fais attention, tu connais un peu les quantités que tu as besoin? Est-ce que tu as déjà traqué auparavant? Comment est-ce que ça se passe?
Alors, j'ai longtemps traqué ce que je mangeais. Comme je t'ai dit, j'avais des TCA, donc pour moi, le fait de traquer, c'était le fait d'être sûr que je mange ce que je devais manger, parce que j'avais souvent l'impression de manger trop par rapport à ce que je mangeais. Enfin, je surestimais mes cales parce que j'avais peur de grossir. Donc, j'ai dû compter mes cales pour être sûr que je mangeais assez pendant une longue période. Et après, j'ai eu des périodes où j'ai fait des grosses périodes d'entraînement. Typiquement, il y a 3 ans, j'entraînais 2 fois par jour, 7-8 heures par jour. Donc, ça faisait une charge de travail énorme. Et à cette période-là, je devais compter, parce qu'en fait, si j'avais tendance à ne pas manger assez, parce que j'avais pas du tout l'appétit pour manger assez, parce que je mangeais quasiment 8000 calories par jour. Donc, si je savais pas que... Enfin, en fait, il fallait que je sache et je sois sûr à 100% que j'avais mis 8000 calories par jour, parce que ça demandait tellement d'énergie physique que si en plus je mangeais pas assez, j'aurais jamais pu tenir ce rythme d'entraînement, quoi. Donc il y a eu des périodes vraiment où je devais compter. Il y a des périodes comme maintenant, en fait, où je me connais et je sais que, bah, en fait, je me dis voilà, je veux me maintenir, je suis à 110 kilos de poids de corps, je veux me maintenir à 110 kilos, je dois manger à peu près 4000 calories, et je sais que dans une fourchette de 5% à la fin de ma journée, j'y serai, quoi. Donc après, c'est juste statistique, hein. S'il y a 350 jours dans l'année, d'un point de vue statistique, il y a de grandes chances qu'il y ait 50% des jours qui sont en dessous, 50% des jours qui sont au-dessus, et donc du coup, ma maintenance, elle est bonne, quoi, globalement.
C'est ça. Et puis, je pense que tu as tellement, comme tu l'as dit, passé de temps à traquer. C'est vrai qu'au final, tu es maintenant à l'œil nu, tu sais exactement ce dont tu as besoin. Et puis, je pense que bon, c'est souvent comme ça. On tourne peut-être souvent autour des mêmes aliments, même si on varie, etc. Donc, voilà, on sait ce qu'on a besoin. Et effectivement, au bout d'un moment, on n'a même plus besoin de traquer pour y arriver. Et du coup, toi, on n'en a pas effectivement reparlé, mais au niveau de l'anorexie, c'est arrivé. Comment est-ce que tu sais ce qui a été l'élément déclencheur de tes TCA?
Disons que j'avais une relation très spéciale avec ma famille, j'étais vachement seul, etc. quand j'étais petit, j'avais des contacts très compliqués avec mes parents, et je pense que ça a plus ou moins lancé le truc. En même temps, j'étais plus ou moins sportif de haut niveau en foot, j'avais un bon niveau dans le foot, et donc du coup, moi, mon but, c'était de perdre un peu de poids pour performer au début, et après, j'ai perdu trop de poids simplement, et je me suis dit, ouais, ça fonctionne, donc je perds encore plus de poids, et voilà, quoi, la spirale a été lancée. Et après, les gens qui étaient autour de moi comprenaient pas forcément ce qui m'arrivait, parce que surtout pour un homme, c'est une maladie qui est quand même vachement rare. Et je pense que de manière générale, les gens ont du mal à se rendre compte de l'aspect psychologique, en fait. Parce que c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que l'anorexie, c'est une maladie mentale, c'est psychologique. C'est pas juste le fait d'être maigre ou d'être dénutri, c'est deux choses différentes. C'est vraiment le fait de ne pas réussir à manger. C'est-à-dire d'avoir peur de grossir, d'avoir peur de manger littéralement. Et c'est ça que les gens comprennent pas. Et je pense que c'est ça que les gens dans mon entourage n'ont pas compris. Ils pensaient simplement que Je ne voulais pas manger, ce qui n'est pas faux, mais c'est juste que je ne pouvais pas. En fait, j'avais pas l'habilité. Enfin, mentalement, je n'arrivais pas à manger, en fait. Et ça, ils avaient vraiment du mal à comprendre. Ils pensaient que c'est simplement moi qui faisais en sorte de perdre du poids, alors que c'est un peu plus complexe que ça. Quand tu étudies un peu la psycho, tu comprends que c'est pas juste ma propre volonté, ou du moins, je suis plus capable de discerner ce qui est nécessaire pour moi, quoi. Vu que c'est ça, une maladie mentale, plus ou moins, quoi.
C'est ça. Et puis, on peut être sorti physiquement de l'anorexie et garder de l'anorexie mentale, c'est-à-dire des réflexes qu'une personne qui n'est jamais passée par là n'aura pas. Même, il y a des personnes, ça peut être, ne serait-ce que boire, ça peut être un défi ou un challenge. Donc, c'est vrai que ça part souvent, effectivement, d'un mal-être, effectivement, ça peut être familial, ça peut être plein de choses. Et effectivement, après, donc toi, ce qui t'a aidé, c'est vraiment les débuts en musculation, parce que quand tu as commencé la musculation, tu étais encore en phase d'anorexie.
Mmh. Bah, c'est simple, là, je faisais la taille que je fais aujourd'hui, donc 1m80, je étais même un peu plus grand avant, 1m90, et je faisais 58 kilos, quoi.
Ouais.
Donc c'est pas beaucoup en termes de poids, mais comme je l'ai dit, en fait, l'anorexie, on pourrait être, en théorie, hein, on pourrait être obèse et être anorexique, quoi. L'anorexie, c'est vraiment le problème, juste de ne pas réussir à manger. Et moi, en fait, la muscu, ça m'a aidé, parce que je me disais que si je m'en rangeais à maintenance, ou en tout cas je prenais du poids en faisant une activité physique, donc avec des poids, ça me permettrait de prendre du muscle et pas prendre de gras. Et c'était ma première étape pour me dire, ok, j'arrive à prendre du poids. Parce que j'avais vraiment cette peur de prendre du gras, quoi.
Tu voyais ça comme du carburant pour nourrir la machine, pour justement manger et avoir un physique esthétique à côté.
Et c'est là où j'ai réussi à me relancer et à me dire, ok, finalement, c'est peut-être pas si mal de reprendre un peu de poids. Et même si je prends du gras, tant que je reste en contrôle de ma composition corporelle, si demain je décide de reperdre ce gras, je peux le perdre, tu vois. Et c'est ça aussi, je pense, qu'il y a un grand problème avec la plupart des gens qui sont anorexiques, c'est qu'il y a une grosse notion de contrôle. C'est-à-dire que les gens veulent vraiment pouvoir contrôler absolument toutes les variables qu'il y a dans leur vie. Et souvent, on devient un peu maniaque par rapport à ça quand t'as un passé d'anorexique. Et c'était ça, en fait, c'est la première étape, c'était juste lâcher le contrôle, en fait. Être capable de se dire, oui, je vais grossir et puis on verra, quoi.
Ouais, c'est ça. Et puis, est-ce que maintenant, tu sens que, imaginons, tu arrêtais ton activité sportive, est-ce que tu aurais toujours ce rapport un peu particulier par rapport à toi, ton corps, pas envie de prendre du gras et de d'avoir cette dégradation un petit peu physique, ou est-ce que tu penses que tu en serais sorti à 100%?
Alors, si tu veux, à l'heure actuelle, prendre du gras ou pas, je m'en fous totalement. Prendre du poids ou pas, je m'en fous totalement, parce que justement, j'ai l'excuse du sport. C'est-à-dire que si je le fais, je le fais pour performer. Que je sois gras ou pas, je m'en fous en soi, tant que je suis performant dans mon sport, c'est ce qui m'importe. Maintenant, si j'ai arrêté totalement mon sport, ce que je me vois pas faire honnêtement.
Oui, c'est vrai que c'est plus particulier, mais on va dire une hypothèse.
Dans le cas où ça arriverait, je pense que je ferais attention à mon image physique. Maintenant, si je prenais un peu de gras, ça me dérangerait pas. Enfin. Je ferai toujours attention à mon image, mais je pense pas qu'on pourrait appeler ça l'anorexie. C'est juste que je voudrais être en phase avec moi-même, et je pense que être obèse comme tout le monde, c'est pas entre guillemets une bonne chose, et donc je le voudrais pas pour moi, tu vois.
C'est ça, t'adapterais plus ton total calorique par rapport à ça, par rapport à ce que tu ferais dans la vie de tous les jours, tes dépenses, pour rester on va dire propre physiquement, quoi, comme tu l'entends.
C'est ça. En fait, c'est juste, je veux pas me mettre dans une position où entre guillemets je pourrais niquer ma santé pour juste parce que je décide de manger trop, quoi. Enfin, c'est plus ou moins plus dans ce sens là quoi.
C'est ça. Et puis maintenant, imaginons tu devais prendre imaginons, hein, c'est vraiment tu devais passer en dans une catégorie supérieure, est-ce que pour être plus performant et pour être je sais pas, pour être champion du monde, imaginons tu arriverais pas dans ta catégorie, tu devrais baisser ou augmenter, enfin par du principe d'augmenter, parce que baisser ça t'amènerait peut-être plus à sécher, donc ce serait moins un problème. Est-ce que tu serais capable de le faire pour ton sport?
Je l'ai toujours dit, moi, si demain on me garantit qu'en faisant 180 kilos, je suis le meilleur athlète au monde, je le fais, il n'y a aucun problème.
C'est ça.
Il n'y a aucun problème.
Parce que de toute manière, tu as ce. Après, c'est plus aussi quand tu fais plus de sport, c'est vrai que c'est un peu ton identité aussi, quoi. Ton identité de sportif de haut niveau. Et c'est vrai que si tu perds cette identité, c'est dur de se dire je fais 180 kilos, mais je suis pas le. Enfin, je veux dire, tu n'as plus cette identité de champion du monde, quoi.
Il y a une question d'image, je pense. Déjà, quand t'es sportif, de niveau, que tu le veuilles ou non, sans faire attention à ton corps, t'as toujours plus ou moins un bon physique, parce que c'est comme ça, quoi. Si t'es sportif de niveau, t'as forcément un physique qui est, on va dire, attractif pour 99% des gens, ou en tout cas qui est considéré comme beau dans la norme. Après, il peut y avoir des déviances. Typiquement, si je fais 130 kilos, même si je reste plus ou moins sec, pour la plupart des gens ce sera sûrement trop musclé, ou en tout cas pas forcément très attractif. Mais en fait, moi, ce qui m'importe vraiment en tant qu'athlète, c'est de progresser et de performer, tu vois. Donc c'est comme j'ai dit, si demain je dois faire 120 kilos, si je dois faire 93 kilos, 83 kilos, enfin peu importe, je ferai toujours le choix qu'il faut pour me faire performer, tu vois, indépendamment de ce que ça me coûte. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que voilà, le sport de haut niveau, c'est pas non plus un sport santé, absolument pas. J'en suis parfaitement conscient. Ça fait longtemps que je pratique. Je sais très bien que mon corps est pas content de ce que je fais, tu vois. C'est de l'optimisation, mais c'est de l'optimisation extrême. Et comme je te dis, bah, typiquement, tu vois, dans ma journée, je suis tout le temps fatigué. Et alors que la seule charge, entre guillemets, de fatigue que j'ai, c'est l'entraînement, c'est pas normal, tu vois. Et je veux dire, personne n'a envie d'être fatigué toute sa journée. Mais pour moi, c'est comme quelqu'un se lève à 8h pour aller taffer et finit sa journée à 17h, il est fatigué. Moi, c'est la même chose. C'est mon entraînement qui me consomme mon énergie. Et pour moi, c'est juste normal, quoi.
C'est ça. Et du coup, vu que tu n'as pas, entre guillemets, voilà, un travail, comme tu l'as dit, un travail physique derrière, tu peux te concentrer quand même sur tes tâches et les assurer, comme bah, le coaching, j'imagine. Donc, mm-hmm. au niveau de tes activités pro, ça se résume du coup, bah, globalement, je pense que la plus grosse partie, c'est le coaching. Et puis, la gestion du coup de ta marque.
Je gère pas grand chose dessus, mais on va dire que de manière générale, ça peut me prendre un peu de temps. Et après, il y a aussi tout simplement bah, les réseaux, tu vois. Je suis quand même vachement présent sur YouTube. Donc, bah, déjà, j'ai une vidéo plus ou moins par semaine qui sort, donc ça, faut le faire. Quand je pars en compétition, je dois gérer bah, le caméraman qui vient avec moi pour faire la compétition. Il y a quand même pas mal de gens qui, entre guillemets, gravitent autour de tout ça. Donc, c'est des gens aussi, entre guillemets, que je dois plus ou moins aider ou que je dois conseiller ou des gens qui travaillent avec moi. Donc, ça me prend aussi du temps, du relationnel, quoi. Mais oui, ce qui me prend le plus de temps, c'est le coaching, suivi par les réseaux. Puis après, il y a tout le reste, tout ce qui tourne autour de la marque, les événements, tout ça. Enfin, ça prend quand même un petit peu de temps aussi, quoi.
D'accord. Et du coup, pour clôturer un petit peu cette discussion, j'imagine que bon, niveau sportif, ce serait assez simple de définir tes objectifs des prochains mois, années. Ce serait d'être champion du monde, j'imagine, en senior déjà en 105 kilos et d'être potentiellement un des meilleurs athlètes et le meilleur athlète en termes de power et de participer, pourquoi pas, à des compétitions comme Sheffield, qui sont, je pense, un goal pour les athlètes de haut niveau. Et du coup, au niveau donc, professionnel, etc., tes objectifs pour ces prochains mois, années ?
Moi, actuellement, en tant que coach, personnellement, je suis, on va dire, pas overbooké, mais j'ai déjà largement plus de travail que ce que je peux supporter. Donc, je bosse avec des gens. Donc, moi, mon but, ça va être, on va dire, de développer cette activité-là, de pouvoir continuer à former des coachs qui travaillent avec moi et qu'on travaille ensemble. Après, je ne veux pas en avoir non plus trop parce que ce n'est pas le but. Le but, c'est quand même que ça reste quelque chose d'assez proche, un truc sur lequel je peux avoir la main, puisque c'est comme ça que je préfère faire les choses. Je préfère privilégier la qualité à la quantité. Mais donc, voilà, continuer à former les gens, continuer à développer notamment la marque. Worker qui quand même prend un sacré essor et après il y a plein de petits projets qui se greffent autour de ça, que ce soit YouTube, les réseaux, enfin il y a plein de choses, il y a toujours des choses à faire de toute façon et voilà, c'est de développer mon image en tant que sportif, développer aussi l'image que le sport peut avoir, puisque en tant qu'athlète de haut niveau, ceux qui ont de la visibilité, c'est un peu notre rôle aussi de médiatiser et faire la promotion de notre sport,
donc d'être un ambassadeur quoi, un petit peu pour ce sport,
ouais, voilà,
quoi.
C'est ça. Et puis après maintenant il y a aussi j'ai la chance de pouvoir avoir des sponsors qui me payent ou qui m'aident à vivre, et donc continuer sur cette lancée là en fait, à avoir de la notoriété et à pouvoir aider les gens qui pratiquent ce sport autant que possible via tout ce que je fais à côté, quoi.
Ok, bon écoute, des goals pour ces prochains mois, pour ces prochaines années. En tout cas, je te remercie pour cette discussion. C'était vraiment cool d'avoir un petit peu du coup ton parcours, de savoir aussi que t'es passé par l'anorexie, parce que je sais qu'il y a pas mal de personnes qui nous écoutent qui passent par des TCA, alors que ce soit d'autres phases, par exemple des crises hyperphagie, ce genre de choses. Mais c'est intéressant de voir et d'écouter quelqu'un qui a réussi à guérir et du coup à devenir un athlète derrière après. Donc c'est vraiment cool, et puis d'avoir un petit peu des backstage concernant le power, des choses qu'on sait pas forcément, et puis pour certaines personnes, je pense, découvrir cette discipline, ça va peut-être leur donner envie de s'intéresser et pourquoi pas de s'y lancer. Donc en tout cas, je te remercie, c'était vraiment un plaisir. Et puis il y aura les réseaux sociaux qui vont s'afficher de Corentin, donc c'est pas son nom, attention, sur les réseaux c'est SBD Forever, donc n'hésitez pas à aller checker donc sa chaîne YouTube et son compte Instagram. De toute manière, comme je t'avais dit, il y aura les liens juste en dessous. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée, et puis je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast. Salut à tous.
Merci pour votre écoute. Sachez que ce podcast est disponible en vidéo sur YouTube, mais aussi sur toutes les plateformes de streaming, Spotify, Deezer ou Apple Podcasts par exemple. Donc pensez à vous abonner pour ne rien louper des prochains podcasts. C'est tout pour aujourd'hui et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Salut à tous.